Je continue cette fois-ci pour le mois de février et je vais parler des biens matériels. Saint Thomas d'Aquin insistait sur le fait que la richesse n'est pas un mal mais un bien. C'est toutefois un bien dangereux car il risque de nous détourner de l'essentiel. Si la qualité type du riche est la magnificence, le défaut qui le guette et dans lequel il sombre trop souvent est la cupidité, ou du moins un attachement désordonné au bien de ce monde. C'est ce que raconte l'Évangile dans le drame du jeune homme riche qui, appelé à une vocation excellente, n'a pas eu le courage de dire oui. Combien y en a-t-il aujourd'hui ? La révolution industrielle a eu pour résultat un développement inouï des techniques et des possibilités humaines. Le pouvoir de l'homme sur la nature s'est développé de manière spectaculaire. Il n'est que de comparer la société de 1850, le choléra faisait encore de nombreuses victimes, on mettait d'une dizaine de jours pour aller de Paris à Marseille et trois fois plus pour aller du Havre à New York, le gaz commençait à peine à remplacer les chandelles dans les rues de Paris, il y avait des porteurs d'eau, on se faisait porter manuellement des bains à domicile, et une pompe dans un véhicule allait de maison en maison évacuer les fosses septiques individuelles. 150 ans plus tard, il serait impensable de louer un appartement sans ascenseur, encore moins sans douche, au minimum, ou sans égout. Ce serait d'ailleurs interdit par la loi. Ce développement matériel ne saurait être considéré comme un mal, à condition qu'il n'aille pas contre notre liberté d'enfant de Dieu. Or, on constate que ce bouleversement, a donné naissance à une science économique, mais dans une ambiance que l'on qualifierait maintenant de post-chrétienne et qui est de fait anti-chrétienne. Les Lumières, qu'il serait plus juste d'appeler les Ténèbres, elles ont débouché sur la Révolution, hélas française, sous la houlette de la franc-maçonnerie. Donc les Ténèbres, les Lumières étaient passées par là. Les théories économiques ont été élaborées dans cette atmosphère athée, tenant toute occupation spirituelle pour superflue. La conception de l'homme et de sa vie se réduisait à l'avoir et la vocation de l'homme à la jouissance des seuls biens d'ici-bas. Benoît XVI n'arrête pas de le répéter et Paul VI déjà dans son encyclique Gaudium et Spes, quasi contemporaine de mai 68, a bien précisé que le but fondamental d'une telle production n'est pas la multiplication des biens et des produits, Paul VI a bien dit que le but fondamental d'une telle production n'est pas la multiplication des biens produits, ni le profit, ni la puissance, mais le service de l'homme tout entier, selon la hiérarchie de ses besoins matériels, également des exigences de sa vie intellectuelle, morale, spirituelle et religieuse. Bref, de la noblesse de tout homme, de tout groupe d'hommes, sans distinction de race ni de sentiment. Ravaler l'être de l'homme uniquement à son avoir est l'un des péchés les plus épouvantables de notre époque. Dans Populorum Progressio, il a souligné qu'une des finalités de l'activité humaine doit permettre à l'homme de réaliser son être et non de l'aliéner par cupidité ou par défaut. L'acquisition des biens peut conduire au désir d'avoir toujours plus et à la tentative d'accroître sa puissance. L'avarice des personnes, des familles et des nations peut gagner les plus riches comme les plus pauvres et susciter chez les uns comme chez les autres un matérialisme étouffant. Avoir plus n'est pas le but de la vie. La recherche exclusive de l'avoir fait obstacle à la croissance de l'être et s'oppose à une véritable grandeur tant pour les nantis que pour les personnes qui le sont moins, que pour les pauvres. L'avarice est la forme la plus évidente du sous-développement moral. Tout ça, on devrait le dire, le répéter, l'homme ne se résume pas à son compte chèque. Et lorsque nous nous trouverons devant le Père éternel, ce n'est pas sur la bonne tenue de nos finances que nous serons jugés. Les exemples abondent dans l'Évangile. Le riche et le pauvre Lazare, bien sûr, mais aussi l'homme qui avait fait une excellente récolte, auquel il fut dit « insensé ». Cette nuit même, on te redemandera ton âme, et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il ? C'est dans l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 9e. Ou bien, que servira à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Les biens matériels doivent servir de tremplin pour l'être supérieur, mais jamais être considérés comme une fin en soi. Il ne faut pas confondre l'être et l'avoir. Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. C'est encore ce que l'on voit dans l'évangile de Saint-Luc, cette fois-ci au chapitre 12e. Cette dernière phrase est à méditer. Jean-Paul II l'a redite sous une autre forme. Vous valez ce que vous désirez. J'ai connu un brave homme qui avait une belle position dans les autorités d'un port autonome et qui se faisait régulièrement inviter à un repas, parfois un dîner, un déjeuner, comme ça tombait. Le but était non pas de l'acheter, mais d'entretenir des relations cordiales, car il vaut toujours mieux discuter avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, on échange des sourires. Il m'a dit un jour, j'ai réussi ma vie, j'ai réalisé mon rêve. Mon rêve a toujours été de me faire inviter dans les meilleurs restaurants, c'est fait. Pauvre homme. En quelque sorte, il n'était plus qu'un tube digestif, précédé, il est vrai, d'un palais délicat, piètre consolation. Je pense qu'il avait quand même quelque chose en plus. Ce que dit Jean-Paul II est bien vrai. Celui qui ne pense qu'à son plaisir ne vaut que son égoïsme. Celui qui ne pense qu'à l'argent ne vaut que de l'argent. Et souvent, il n'est pas difficile de l'acheter. Celui qui ne pense qu'au pouvoir ne vaut que le pouvoir. Et celui qui pense et agit pour Dieu, voire la longue liste des saints, vaut la présence réelle qui est en lui. D'un autre côté, on peut voir ce qui a rendu certains noms immortels. La philosophie pour Socrate, Aristote et Pascal. La peinture pour Botticelli, Rembrandt, Renoir. La musique pour Bach, Ravel et Fauré. La science pour Newton, Cauchy et Pasteur. La sainteté pour Pierre, Thomas d'Aquin ou François d'Assise. Aucun de ces hommes n'a brillé par la richesse. Qui a brillé par sa richesse? Crésus? Rothschild, que bien des jeunes ont oublié si j'en crois leur conversation? C'est vraiment bien peu de choses. C'est bien là l'origine de la confusion, pour le moins du manque de discernement qui a précédé à la naissance du libéralisme. En tant qu'étude sur le mécanisme du commerce des biens produits par l'industrie humaine, il n'y a rien à redire, dans la mesure où cette étude est menée sérieusement. Mais on a vite fait de glisser vers l'idéologie, en considérant que l'activité économique est la principale de l'homme, voire l'unique digne d'intérêt, voire l'unique souci dans une société laïque et obligatoire. C'est la croissance, le taux de croissance, le PIB, c'est le pouvoir d'achat, le reste, on s'en moque. Jean-Paul II l'a très bien exprimé dans Sollicitudo Rei Socialis, le mal ne consiste pas dans l'avoir en tant que tel, mais dans le fait de posséder d'une façon qui ne respecte ni la qualité, ni l'ordre des valeurs des biens que l'on a. Qualité et ordre des valeurs qui déroulent de la subordination des biens et de leur mise à disposition de l'être de l'homme, et à sa vraie vocation. Plus loin, on dit voici le résultat. Il y a un petit nombre possédant beaucoup qui n'arrivent pas vraiment à être parce qu'ils sont empêchés par le culte de l'avoir, et un grand nombre possédant peu ou rien, qui n'arrivent pas non plus à réaliser leur vocation humaine fondamentale, parce qu'ils sont privés des biens élémentaires. Les premiers sont victimes d'un surdéveloppement qui rend facilement des hommes esclaves de la possession et de la puissance immédiate, sans autre raison que cette puissance et le remplacement continuel de ce qu'on possède. On veut le dernier cri, on va changer son ordinateur, on va changer tout ça. Les seconds seront victimes du sous-développement. Il est grand temps de revenir au conseil de saint François d'Assise, chasser la misère et cultiver la pauvreté. Cette distorsion n'est pas imputable aux techniques économiques, mais à la morale, ou plus exactement au manque de morale qui sous-tend les comportements économiques. Au nom de la liberté de chacun, selon le libéralisme, ou de la libération de tous, selon le socialisme, l'homme travailleur a été soumis à la loi d'un capital privé et sans pitié, dans le libéralisme, ou d'un État tout aussi impitoyable, dans le socialisme. On n'a plus le choix qu'entre une conception inhumaine d'une propriété sans autre limite que l'égocentrisme du propriétaire, dans le libéralisme, ou d'un collectivisme qui broie tous les hommes dans une machine infernale, c'est le socialisme. Et ne parlons que pour mémoire de la finance devenue folle qui brasse des sommes invraisemblables, on l'a vu dernièrement, qui ne repose même plus sur du papier, empêchant le brave homme de gérer ses quelques économies dans l'unique but d'assurer son avenir. Le socialisme les confisque, le libéralisme les évapore. En définitive, répétons, Répétons-le, socialisme et libéralisme sont les deux faces opposées de la même pièce de fausse monnaie, celle du culte du progrès, sans savoir s'il aboutira au mieux ou au pire, à la centrale nucléaire ou à la superbombe, au traitement de la trisomie ou à l'eugénisme avorteur. Pièce de fausse monnaie qui rejette la seule vraie grandeur de l'homme, celle de créature à l'image de Dieu rachetée par le sang du Christ. Grandeur qui nous appartient de proclamer à nous chrétiens. Le niveau d'une civilisation n'est pas celui du niveau de vie, ni celui du produit national brut, ou celui du CAC 40. Nous valons plus que notre compte en banque. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet qui est assez grave et qui nécessiterait un effort sans arrêt pour que nous puissions le dire partout. Arrêtez de ne parler que de finances, arrêtez de confisquer tout, de vouloir avoir plus, ce n'est pas là que réside votre avenir. Voilà.